Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Quels sont les impacts de la densification et de l'étalement urbain? On en parle aujourd'hui avec le professeur Nicolas Chukwu-Onemba, professeur à l'Université d'Ottawa au Canada. Professeur Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien.
Merci beaucoup.
On vous retrouve dans quelques instants. Des questions et préoccupations par rapport à ces sujets, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Pierre Diassino à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la réalisation de cette émission. Marcel Ngombo la coordonne au micro. Jeudi Daniel Kachama. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, les centres urbains sont de plus en plus envahis par une population de plus en plus nombreuse dans le même espace. Donc il y a une démographie, comme on le dit, galopante, et ce qui pose des sérieux problèmes d'urbanisation et de salubrité publique. Et on assiste également à une forte progression des surfaces urbanisées dans la périphérie des grandes villes. On retrouve des maisons individuelles qui poussent comme des champignons et se développent en même temps des centres commerciaux. Vous verrez dans un quartier où il y a beaucoup de maisons basses, certains exploitent l'espace aérien. Voilà, on va en hauteur, tout ça. Alors, quels sont les impacts de la densification et de l'étalement urbain? D'abord, c'est quoi la densification? C'est quoi l'étalement urbain? Notre invité nous le dira tout à l'heure. Il s'agit du professeur Nicolas Chukwu-Onemba, le professeur à l'Université d'Ottawa. Il est également géographe et il est expert en environnement. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, densification, c'est quoi la densification et c'est quoi l'étalement urbain?
Ce sont des concepts qui existent, la densification urbaine comme l'étalement urbain. Comme le nom l'indique, l'étalement urbain, c'est le fait dont une ville est en train de prendre de l'espace, surtout dans les zones périphériques. Une ville qui s'étale, qui est en train de grandir vers la périphérie. Mmh. Et tandis que la densification, c'est densifier. Donc, une population qui se concentre à un seul endroit où les maisons sont en train de prendre plusieurs ménages dans un même endroit. Ça, c'est la différence qu'il y a entre la densification et l'étalement urbain.
Densification, ça veut dire il y a une concentration de la population au même endroit.
La densification, c'est la concentration de plusieurs personnes qui peuvent habiter dans une même dans un même logis, un même habitat en hauteur.
Ça peut être un immeuble où on retrouve beaucoup de.
C'est surtout les immeubles.
Les appartements.
Ouais, on peut trouver les appartements. Et les gens y habitent. Et dans des maisons en étage. Mmh. Il y a des pays comme la ville comme de la ville de Toronto. Mmh. Vous pouvez arriver à des étages de 30
niveaux.
30 niveaux. Vous comprenez que ça est un étage qui peut prendre plus de 500-700 personnes qui y habitent. Donc les gens sont densifiés dans une maison en hauteur.
L'étalement, c'est...
Et par contre, l'étalement, quand les maisons sont en train de prendre de croître d'une façon pavillonnaire d'abord vers la périphérie. Ce sont des maisons habitation où les gens habitent d'une façon spontanée à la recherche de l'espace.
Mmh. Et une occupation anarchique quoi, de l'espace.
Dans les pays du tiers-monde, on parlera de l'occupation anarchique, mais dans les pays développés, il n'y a pas d'occupation anarchique parce que les instruments de la planification urbaine existent déjà avant que les gens ne puissent aller s'installer. Mais je prends l'exemple de la ville de Kinshasa. Quand vous regardez toutes les périphéries de la ville, même au centre de la ville, les occupations de l'espace sont souvent d'une façon anarchique, sans normes, sans programme urbanistique.
Bien, professeur, vous êtes docteur en sciences forestières, vous travaillez aussi dans les sciences de l'environnement, géographe aussi, et puis expert dans tout ce qui concerne l'évaluation environnementale. Alors, quel lien tout cela a à voir avec l'identification, l'étalement urbain? Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, parce que, comme tu l'as dit, vous, journaliste, je suis docteur en sciences forestières. En fait, c'est l'écologie forestière est en train d'être décimée quand il y a croissance urbaine. Dès que les gens occupent de l'espace vers la périphérie, ça veut dire ils sont en train de détruire les écosystèmes forestiers, ils sont en train de déstabiliser les écosystèmes savanicoles, ils sont en train de déstabiliser les habitats naturels. Et quand ils détruisent les habitats naturels, ça veut dire ils peuvent engendrer les ravinements, les érosions, déplacements des espèces humaines et animales microscopiques comme macroscopiques. Donc les liens très forts, parce que quand vous construisez, et surtout dans les pays comme du sud comme le nôtre, les gens utilisent quoi? Ils utilisent le bois. Et quand vous coupez les bois, ben vous êtes en train d'agresser la forêt. Quand vous voulez faire vos madriers, vous voulez toller, vous utilisez toujours les bois. Vous coupez les bois. Et à ce moment-là, vous allongez, vous éloignez la forêt loin de la ville, et surtout à Kinshasa. Vous pouvez aller à 10 mètres, 20 mètres, 20 kilomètres, plutôt vous n'avez pas de forêt. Et ailleurs, et quand vous construisez des maisons, la relation, et vous savez que les substrats sol, c'est le lien de la fertilité, où on peut cultiver. Mais quand vous mettez votre maison, vous réduisez les habitats naturels. Mmh. C'est-à-dire, vous réduisez l'espace culturel. Vous réduisez les endroits où on peut cultiver. Donc, il y a une corrélation importante. Docteur en sciences forestières, oui, la relation entre déstabilisation des écosystèmes et les constructions des maisons
oui.
Ou bien les routes, il y a une très grande relation.
Alors parlez-nous des impacts de l'identification. Quand les gens sont concentrés, ils sont dans une ville, voilà, quels sont les impacts de cette identification?
Oui, mais les impacts, nous voulons les classer en deux dans la densification urbaine. Et comme première conséquence, une conséquence positive, les gens sont ensemble. Alors il y a les gens qui tissent des liens. Alors, il y a des liens sociaux qui sont tissés. Il y a les gens qui peuvent se connaître. Mais quand vous habitez un même endroit, les gens, néanmoins, il y a plusieurs relations qui existent à ce niveau-là.
Oui.
Et puis, il y a des conséquences qui sont négatives. Finalement, quand il y a la densification urbaine, vous savez que quand vous construisez une grande maison, les maisons en étage, la première des conséquences, les maisons en étage en elles-mêmes sont énergivores. Parce que vous devez utiliser plusieurs quantités d'énergie. Quand vous mettez les ascenseurs ont besoin de l'électricité, vous avez la climatisation, vous avez besoin de l'électricité, et tout cela ça influe sur les changements climatiques, dont les impacts.
Mais professeur, ici chez nous, on n'a pas ce genre de construction où vous retrouvez plusieurs personnes dans un bâtiment. Comme c'est le cas ailleurs, peut-être au Canada.
Mais oui, mais il y a des maisons en hauteur ici dans la ville de Kinshasa. Ces maisons, vous trouvez des bureaux, vous dans c'est une forme de densification.
Ouais.
Donc vous voyez aujourd'hui, moi quand je partais de la ville de Kinshasa, il y avait plus de maisons pavillonnaires. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le long des boulevards, c'est ce que je trouve, que il y a un phénomène des nouveaux riches, qui sont en train d'ériger les maisons en étage. Et ces maisons en étage sont énergivores. Et les maisons en étage, ce sont des maisons qui occupent de l'espace. Et que des gens qui sont dans des maisons en étage, vous comprenez qu'il y a aussi un phénomène social, de stress, un phénomène de la promiscuité. Donc, il y a toujours certains dégâts négatifs quand les gens ils sont ensemble.
Bien. Alors, il y a toujours des impacts. Et maintenant, par rapport à l'étalement urbain, quels sont les impacts qui sont liés à cela?
Mais l'étalement urbain, les impacts sont nombreux. Regarde les gens qui habitent vers la périphérie. Je vais vraiment prendre l'exemple de Maluku. Je crois il y a les gens qui sont vers la route du Bas-Congo. Regarde, il y a d'abord le problème de distances qui se posent. Et puis en construisant leur maison, il déstabilise l'équilibre écoclimatique en coupant la forêt, et il y a le phénomène de ravinement, il y a le phénomène d'érosion. Et vous allez remarquer, les gens qui sont ils sont éloignés du centre-ville, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent chercher à venir dans la ville. À ce moment-là, il y a des maisons où les gens ont 2, 3, 4 voitures, et ils polluent la nature. Et vous trouvez, les routes de la ville de Kinshasa sont saturées. Parce que dans le cadre de l'étalement urbain, dans des pays à haute urbanisation moderne, donc on construisait les autoroutes. Mais les autoroutes, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas, comme vous appelez ici, embouteillage. Mais ici, vous pouvez faire des Lemba pour arriver à Matete. Quelqu'un peut faire une heure parce qu'il est dans le trafic.
Donc même plus d'une heure.
Bon, donc voilà. Ouais. Alors à ce moment-là, vous perdez du temps. Vous avez le problème de stress. Vous avez ici vous trouvez une incompréhension des chauffeurs. Les gens ne veulent pas déplacer il n'y a pas la courtoisie routière. Tout ça, ce sont des phénomènes de l'étalement urbain. Et puis le fait aussi, vous allez remarquer dans le cadre de l'étalement urbain, il y a l'occupation anarchique des sols,
des espaces.
Les espaces, les gens, les chefs coutumiers peuvent vendre un espace à 10 personnes, et c'est normal. Et quand ils les vendent, ils arrivent au niveau du cadastre, qui est le gouvernement leur donne les documents. Et vous comprenez, ça amène des confusions. Il y a des gens qui se mettent en conflit, en accusation, ils se blessent parce que quelque part il y a une mauvaise gestion de l'espace du sol. Alors que ça, c'est des phénomènes de l'étalement. Et quelqu'un peut aller récupérer l'espace d'une autre personne. Et dans l'étalement urbain, il y a le problème de l'eau, hein. Donc vous avez dans la périphérie, avoir de l'eau, c'est vraiment difficile. Il y a des gens qui font des forages, mais pour trouver ces espaces-là. Et le fait de l'étalement urbain, ça montre que la ville est en train de prendre de l'ampleur du fait de vue de la croissance démographique. Et si ce n'est pas contrôlé, vous allez voir que vous perdez tous les espaces. Et à un moment donné, vous n'avez pas les êtres vivants autres que les hommes à côté de vous, parce que vous êtes en train de détruire ces espaces-là. Donc, les conséquences de l'étalement urbain, ce sont des conséquences tout à fait nombreuses.
Aujourd'hui, on dit à Kinshasa, c'est presque 10 millions ou plus de 10 millions d'habitants. Et à un moment, à cause des bouchons, tout ça, les trafics, la concentration, à un moment, les gouvernements pensaient même à la construction d'une deuxième ville de Kinshasa pour désengorger la ville actuelle.
Bon, je ne sais pas qu'il y a une statistique qui est faite à la République démocratique du Congo. Je me souviens qu'il y avait une la statistique réelle qui a été réalisée. Mais aujourd'hui, il y a certains ouvrages, quand vous lisez, ils parlent de 10 millions d'habitants, d'autres parlent de 15 millions d'habitants. Mmh. Partant que il y a une extrapolation de 10 à 15 millions d'habitants, c'est ce qu'on est en train de subir un phénomène de la conurbation, une croissance urbaine exagérée. Donc, on pouvait dire que Kinshasa, c'est vraiment un mégapole. Maintenant, c'est une très bonne idée de transférer d'autres personnes dans un autre endroit. Mais le problème du gouvernement, il prend une bonne décision. C'est vraiment une bonne décision. Il faut que les études puissent être réalisées, les études du sol, les études environnementales, les études écologiques, plusieurs études pour permettre à faire déplacer les gens d'un endroit à un autre. Si seulement que les gens vont aller occuper les places et la programmation vient après, là, il y a un problème.
Bien. On va accueillir les auditeurs. Nous avons Charles en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour.
Et bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi au professeur.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Charles, par rapport à la densification et l'étalement urbain?
Mon très cher journaliste, à mon avis, cette pratique n'a pas sa place dans les tiers-monde en général et en RDC en particulier. Ici, chez nous, par exemple, les Bantous ont montré leurs limites en vivant d'une manière saturée. C'est plus d'inconvénients que d'avantages. Entre autres, les contrôles sociaux, comme le dit souvent mon ami Katia Idekanyo Kake Jessali, il y a les tapages nocturnes, les églises de réveil et consorts, l'insécurité totale, parce que notre police d'ailleurs n'est pas à la hauteur. En tout cas, moi je vois que c'est une urgence d'agrandir nos villes ici. À Lubumbashi où je suis, il y a des quartiers qui sont déjà saturés depuis des années. Il y a les quartiers Bongonga, les quartiers Kigoma, les quartiers Taba, les quartiers Luo aussi. En tout cas, c'est déjà saturé, il est cité que c'est là. Mais je ne sais pas qu'est-ce que l'État attend. Et dans tous ces quartiers dont je venais de faire une énumération, vous constaterez que si les choléras, rougeole, ça commence par exemple, tous ces quartiers-là sont toujours des quartiers pilotes. Ces quartiers-là ne manquent jamais. Tous ces problèmes-là de genre, ça commence toujours dans de tels quartiers-là. Même les insécurités qui ne finissent pas, c'est toujours dans ces quartiers-là. Alors moi, je vois que ce mode de vie-là doit être combattu jusqu'aux ongles. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire. À vous l'antenne et bonne journée.
Bien, merci Charles de Lubumbashi. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Un instant avant de répondre à Charles, on va accueillir Jonathan de Mbandaka. Bonjour Jonathan.
Oui, c'est Jonathan Ekofoweta depuis la ville de Mbandaka.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
En tout cas, c'est mon... Pour moi, je dirais que non, l'idée-là a les avantages ainsi que les désavantages. L'idée d'abord de rapprocher les villes avec les villages, c'est un de limiter certains impacts Donc, il y a les impacts que la population traverse concernant les endroits un peu isolés. Les Kuluna ainsi que d'autres actes sont à la répétition. L'idée était qu'une personne qui reste un peu plus loin, en tout cas, pour accéder à la ville, c'est un peu compliqué. Il peut avoir le bois de chauffe et tout consort, mais il peut aussi aller quelque part à la ville pour acheter quelque chose et il revient. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je pense que pour mettre fin à ça, en tout cas, c'est impossible. Mais l'État doit avoir les idées qui peuvent aider la population ainsi que la communauté entière pour que cet phénomène puisse avoir les effets négatifs, non positifs. Merci pour m'accorder la parole.
Bien, professeur, vous avez la parole.
les phénomènes de d'étalement urbain, comme la densification urbaine, ce ne sont pas des idées comme ça en l'air. Ça existe en République démocratique du Congo. On n'amène aucune innovation, ça existe. Et le fait, quand on vous dit croissance urbaine, ça veut dire que expansion de la ville, agrandissement de la ville, c'est ça la croissance. Mais le fait de voir que cette croissance, ça va vers la périphérie, c'est ce qu'on est en train de parler de la de croissance urbaine, et surtout vers la périphérie, une façon d'ajouter, au lieu que les gens se trouvent, restent concentrés à un certain endroit. Mmh. Et en République démocratique du Congo, que ça soit dans la ville de Kinshasa, à Lubumbashi, quand vous parlez de Lubumbashi, il y a des maisons en étage. Le fait que dans des maisons en étage, vous pouvez trouver quelqu'un qui a conçu sa maison en étage, 10 personnes logent dans cette maison. Donc, on les remet dans cet immeuble. On les densifie. Ils sont ensemble. L'identification, ça existe. Ça n'a rien à voir avec la police. Ça n'a rien à voir. Donc, ce sont des faits qui existent. Mais maintenant, les problèmes maintenant de Kuluna, des problèmes de transport, ça c'est la mentalité congolaise. Parce que ça existe partout. Mais les Congolais ne respectent pas les gens. Les lois. Vous pouvez voir une autorité parce qu'il est ministre, il est parlementaire, mais les gens vous disent qu'il y a la flèche qui vous dit de prendre cette route. Lui, il change. Il klaxonne, pas, il prend la route qui ne peut pas prendre.
Ça, c'est la bande concrète.
Une autre bande. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que ce monsieur-là devient supérieur à la loi. Personne n'est supérieur à la loi. Mmh. Donc, ça, c'est une forme d'une prise de conscience des Congolais. Quelqu'un qui peut prendre une machette pour blesser quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la concentration, avec la ville.
Donc, l'identification n'est pas une mauvaise idée en soi.
Mais la densification, c'est bon. Hein.
Ça vient résoudre aussi les problèmes de logement. Les gens n'ont pas, ils cherchent des maisons, tout ça, louer. Ça vient résoudre tous ces problèmes-là.
Oui, pour nous, les écologistes, la densification est un problème. C'est une nécessité, en fait. Parce que ça vient freiner les coûts des maisons. La densification, c'est vraiment très important. Ça vient freiner les impacts écologiques. Au lieu d'aller vers les écosystèmes forêts, aujourd'hui, tout le monde est en train de regretter à travers le monde parce que la température est en train d'augmenter, les phénomènes climatiques se réalisent. Alors la forêt est très très importante. Donc au lieu d'étaler la ville, c'est mieux de densifier parce que ça freine ces phénomènes-là. Mmh. Et la densification, c'est encore mieux parce que vous pouvez loger avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc vous venez tisser des liens sociaux. C'est des choses tout à fait indispensables. Et dans la densification, c'est bien aussi de mettre sur pied les villes durables. Hein. C'est parce que chez nous, il n'y a pas une ville durable.
C'est quoi une ville durable, professeur?
Les villes durables, c'est des villes qui ont des empreintes, qui respectent aux normes du développement durable. Je donne un exemple. Une route durable, c'est une route où on respecte la place de piétons, la place de vélos moteurs, que vous appelez les motos, la place de camions, de voitures. Par exemple, chez nous, en République démocratique du Congo, je trouve une confusion totale, une très grande confusion. Donc, vous trouvez sur la route, vous avez et les motos, et les vélos, et les piétons, et les véhicules. Ça, c'est inconcevable. Mais sur la route, vous avez des lignes qu'on met.
Des bandes qui sont réservées, par exemple.
Pour les passages. Quand un piéton met seulement les pieds, dans tous les pays du monde, les véhicules vont s'arrêter. Mais chez nous, il n'y en a pas. Il faut quand même une certaine conscience et le respect des piétons. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ce qu'on appelle la courtoisie routière. Donc ça, c'est des problèmes de conscience. Ça n'a rien à voir avec la densification.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec l'étalement urbain. Mais sauf que la densification, à mon avis, c'est vraiment très, très, très bien. Ça favorise à freiner même l'étalement urbain. Vous comprenez?
Oui.
C'est mieux.
Là-bas, par exemple, au Canada où vous vivez, comment ça se passe?
À ce qui concerne
l'identification urbaine.
Mais les villes sont densifiées, hein, regarde. Vous allez regarder la ville d'Ottawa, vous regardez la ville de Toronto. Je disais que une ville, vous trouvez 10 étages, 30, 40. Hein, vous avez des
bâtiments de 30 à 40 étages.
De 40 niveaux. Et 40 les gens y habitent. Mmh. Tous les conforts y existent. Vous avez des
Vous achetez votre appartement ou vous louez,
vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous pouvez acheter un appartement. Ça vous appartient, c'est pour toi. Mmh. C'est pour vous plutôt. Et vous pouvez aussi louer. Ça dépend de vos conditions, c'est ce que tu veux. Alors, mais sauf que ça fonctionne. Ici, et là aussi ça fonctionne du point de vue densification, ça fonctionne aussi du point de vue étalement. Les gens peuvent être d'une façon pavillonnaire en périphérie pour gagner, pour demeurer près du champ, faire leur agriculture. Mmh. Vous comprenez? Ça c'est un phénomène réel qui existe.
Bien, vous voulez participer à cette émission, composez les 081-890-63-94. On va accueillir Papy Baka depuis Bokungu. Papy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, visiteur.
Quelle est votre question, Papy Baka?
Par rapport à la thématique, bon, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, que c'est l'État qui est à de toutes les institutions. Mais à moins sur les précautions, les mesures sont prises. Donc, moi, je croyais que l'État pouvait nous aider. Par exemple, les gens qui sont mis, les éléments de la route, qui sont mis au niveau de la route que nous appelons, ils peuvent être instruits. Il y a les instruments d'une manière ou d'une autre. Alors, à la place qu'ils puissent servir la loi, et ils sont d'ailleurs à la base des corruptions, De certaines léthargies pour que les gens ne puissent pas se conformer à l'ordre. Donc, moi, je comprends que c'est l'État qui pouvait régner, que l'État peut mettre tout en ordre, mais du fait que.
Oui, mais papy, par rapport au sujet du jour, l'identification, l'étalement, l'agrandissement de nos grandes villes, l'occupation des espaces, etc. Est-ce que vous avez une préoccupation là-dessus?
Une préoccupation très simple, bon, cette identification, la grandification est bonne, mais ça impacte l'environnement, car nombreuses sont les choses qui sont en train d'être polluées. Et nous sommes, par exemple, chez nous à Bokungu, ici, donc nous sommes entourés par la grande forêt. Ça commence déjà à donner des effets négatifs. Trouver la forêt ici, ça devient. Il faut que vous puissiez faire 5 km ici.
Bien, il y a un peu de souci par rapport à sa communication. On n'arrive pas assez, ils sont entrecoupés. Georges, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Joly. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Avant de poser mes questions ou bien mes préoccupations, j'aimerais d'abord donner les causes, d'après moi, les causes de cette densité ou bien de l'élargissement de ces grandes villes. Premièrement, moi, je ne veux pas dire qu'il y a vraiment un grand problème, parce que c'est un problème de la démographie. Même si vous allez au village, vous voyez la quantité. Donc, dans l'ancien temps, c'était des petits villages, mais actuellement, vous trouvez que les villages viennent de grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a la démographie là-bas. Donc, même dans des villes, c'est toujours c'était le cas. Et surtout, c'est un problème de changement des mentalités. Et surtout, quelqu'un qui est au village, et d'après lui, pour avoir une belle vie, il faut se rendre dans la ville. Donc, c'est une situation très, très difficile à éradiquer. Et pour ce qui est des questions, monsieur Joly, j'aimerais demander à l'invité, est-ce que ce n'est pas un problème de l'organisation, bien de la désorganisation du gouvernement ou de l'État qui fait assez que nous remarquons beaucoup de désordres dans nos grandes villes? Et si je prends un exemple, vous ne pouvez pas me convaincre qu'aujourd'hui, Kinshasa est très populaire par exemple par rapport à la France. Mais si vous allez par rapport à Paris, là, chez eux, c'est tellement très bien organisé par rapport à ici chez nous. Moi, je pense que cela, ça demande aussi une organisation de l'État ou de notre gouvernement. Et surtout, pour terminer, monsieur l'invité, est-ce que ce n'est pas aussi un problème du gouvernement par rapport au calvaire qui se vit au village? Et si vous allez au village, c'est un calvaire, les gens souffrent. Les routes sont en délabrement très, très avancées. Certains ont même peut-être la volonté de venir vivre en ville par rapport à ce calvaire-là. Alors, pour mettre fin à cela, il n'y a pas un problème pour qu'on puisse régler la situation au village, et surtout parce qu'on remarque que le gouvernement centre beaucoup d'activités, surtout les gens qui travaillent dans les organisations publiques centrent leurs activités au sein des villes par rapport au village. Voilà tout, monsieur. Je vous dis bonne suite de notre émission.
Bien, merci pour vos préoccupations. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs? Un instant, on va accueillir Malonga de Bandundouville. Bonjour Malonga.
Oui, rebonjour aujourd'hui, bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la densification et à l'étalement urbain?
Voilà, en tout cas, le sujet vraiment est pertinent puisque c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, aujourd'hui, la politique de la démographie n'est pas vraiment bien définie ici chez nous. Les politiciens, en tout cas, c'est comme si ils ne voient rien. Or, c'est un aspect qui peut vraiment éblouir même la situation politique. Vous voyez ici chez nous, ici, comme le mouvement se passe ici entre Tek et Yaka, le Mobondo aussi, vous verrez dans des années proches ici, 2024, 2025, vous verrez comment est-ce qu'encore Kinshasa sera inondé. Puisque toute la population, ce que nous sommes en train d'écouter ici, se dirige vers Kinshasa. Et ils sont déjà ici. La vie de Bandundu, ça va aussi s'accroître. Alors, comment l'État va procéder? L'État s'est bien planifié. Il a un secteur qui est chargé de ça. Hein? Il a un ministère propre de l'urbanisation et des cadastres, tout ça. Alors, pour lotir une ville, ou bien un village, ou bien quoi, on laisse des espaces. On laisse des espaces comme un espace vraiment réserviste, puisque la population se développe et l'État aussi doit avoir des investissements. Mais ici chez nous, si on lotit, toutes les parcelles sont occupées en une fois, et puis même si il y a une augmentation, donc il n'aura plus encore à faire. Raison pour laquelle on revend encore des parcelles déjà vendues. Et vous voyez, il y a des conflits d'intérêts partout. Dans les bureaux de cadastre, il ne manque pas de problèmes. C'est sûr que c'est là. Bon, il faut réformer ce secteur. Et pour réformer ça, en tout cas, il faut un ordre. Il faut suivre la loi. C'est dommage aujourd'hui.
Bien, merci d'avoir appelé. Il dit à cause des conflits qu'il y a entre les Tek et Yaka, Kinshasa sera surpeuplé, les gens vont fuir les conflits, venir encore à Kinshasa, et puis bon, la surpopulation sera encore constatée. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Okay.
Il dit qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de planification, etc.
Bon, moi je pense que le gouvernement congolais a des lois urbanistiques, mais le ministère ne peut pas exister sans les plans. Il existe des plans, mais il y a un problème d'applicabilité de ces lois. Il y a un problème d'applicabilité des arrêtés. Moi, je crois, c'est ça le problème. Et ici, je prends le dernier là. Il a soulevé un problème des gens qui vont venir beaucoup à Kinshasa.
Qui vont fuir l'insécurité et venir.
Le phénomène d'exode rural, ça c'est un phénomène de déplacement des gens des villages vers la ville. Ça existe partout dans le monde. Mais chez nous, ici, les gens veulent venir à Kinshasa parce que c'est ici qu'ils trouvent le confort. Quelqu'un peut trouver des bonnes écoles ici, et les enfants peuvent trouver, les gens peuvent trouver des travail ici.
Là, c'est plus pour besoin de sécurité.
Il y a des problèmes comme ça, et les gens, la ville va s'accroître. Ce n'est que normal, attendons-nous à cette croissance urbaine. Et d'ailleurs, par manque de l'espace. Mais le village se vide. Et quand le village se vide, ça veut dire qu'il y aura manque d'approvisionnement des denrées alimentaires dans la ville de Kinshasa. Et ce qui est normal, que la ville de Kinshasa va augmenter. Mais un jour aussi, les villageois manqueront de l'espace. Les gens vont manquer de terres. Parce que quelqu'un peut ajouter, ils viennent acheter 1 km² de terre. Ils achètent 50 hectares.
Hectares.
Quelqu'un qui vient acheter tout un village. Ça veut dire quand on vous achète des villages, vous n'avez rien. Et les Congolais ne savent pas. Pour que la loi est claire, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. et que vous êtes là, et que si vous êtes même dans votre village, si vous n'avez pas les documents cadastrales, ce village ne vous appartient pas. Mmh. L'État peut le vendre. Vous comprenez? C'est comme ça que le gouvernement, peut-être, les gens peut-être profitent.
Non, on ne peut pas concevoir qu'un individu achète tout un village.
Mais non, non. Mais c'est vrai. Est-ce que le chef d'État Kabila, de l'État Kabila, vous connaissez la superficie de Kingakati? C'est tout un village là. 10 villages peuvent être réunis là. Vous comprenez? Donc il n'y a pas que loi, que lui. Il y a d'autres personnes qui en achètent. Vous comprenez? Donc à un moment donné, les gens vont manquer leur propre. Ils sont dans leur territoire. La terre de leurs ancêtres, mais ce n'est pas chez eux.
Alors, professeur, quand il y a surpeuplement, la solution, c'est la densification.
La meilleure solution de surpeuplement, c'est la densification. Mais
pour ne pas laisser tout le monde aller chercher un terrain et
pour éviter une croissance urbaine. Parce que la croissance urbaine, comme nous disons l'étalement urbain, nous sommes à Maluku, je ne sais pas c'est à combien de kilomètres, 80 kilomètres. Les gens sont en train d'aller vers Mbagana, donc la ville est en train de progresser. Vous comprenez? Alors que si vous mettez des...
Mais c'est pas bien organisé. Cet étalement n'est pas bien organisé.
Rien n'est organisé à République démocratique du Congo. La construction n'est pas organisée. Nous avons ici les gens qui vont construire avant que l'État arrive. Alors que dans les autres endroits, pour lotir un polygone, comme on dit, il y a la programmation. Il y a ça, c'est l'espace de terrain, des jeux des enfants.
Là-bas,
ça,
c'est le marché.
Là, il y aura le marché, oui. Les centres commerciaux. C'est pas ça. Rien n'est organisé ici. Et même ceux qui sont en train de gérer, le voient, ils ne disent rien. Vous comprenez? Donc, ils trouvent comme acquis une irrégularité, alors qu'il y a des lois.
Et cela a des conséquences sur l'environnement.
Ça a des conséquences sur la population elle-même, ça joue le problème de stress, comme ils ont parlé des cas de Mobondo, je crois, et il y a des gens qui s'entretuent déjà. Quand il y a un mort d'homme, une personne qui arrive à mourir, ou bien deux ou trois, le gouvernement doit se poser un problème et trouver immédiatement la solution.
Ouais.
Et quand il ne trouve pas la solution, il y a un problème. On trouve beaucoup de conflits terriens partout dans la République démocratique du Congo. Quand vous allez à la magistrature, partout, ce sont des gens qui sont en train
des conflits fonciers.
Ça existe partout. Du chef coutumier à aujourd'hui, même dans la ville dans des grandes villes.
D'où la solution, c'est de construire. Il faut peut-être que l'État construise des immeubles.
L'État
prenne où on peut loger plusieurs personnes, plusieurs ménages.
L'État doit prendre des mesures adéquates. Je crois que les gouvernements congolais, par le ministère de l'urbanisme, les gouvernements congolais par le ministère des Affaires foncières. Ils ont des experts, mais s'ils n'ont pas des experts, ils doivent aller en classe pour aller chercher les outils. Ça c'est très très important. Et ils doivent appliquer les normes. Ce sont eux qui doivent donner au gouvernement la matière. Si le gouvernement c'est quoi? Chaque ministre a ses choses à faire. Il faut que ces deux ministères arrivent à planifier, à programmer quelque chose que le chef de l'État peut prendre une décision.
D'accord, on va accueillir Madame Claudia de Colosi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour professeur, merci pour le thème. En fait, on ne peut pas empêcher aux populations de se déplacer dans les milieux urbains en quête de meilleures conditions de vie, mais on peut toutefois réguler. Pourquoi faut-il que tout se fasse sans plan d'aménagement? Les villes sont en train de s'agrandir, mais on ne peut plus appeler ça ville, parce que ça s'agrandit en devenant sale. C'est trop sale, plus que même les villages. On ne peut même plus appeler ça ville, c'est un des villages aussi. Est-ce que ça ne sera pas possible qu'on puisse aussi, premièrement, urbaniser aussi nos villages pour qu'il y ait une répartition, qu'il n'y ait pas une répartition illégale de la population, qu'il n'y ait pas une forte densité dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux? Est-ce qu'on ne peut pas aussi développer nos villages? Parce qu'on est au 21e siècle, mais tout ce qu'on voit comme urbanisme dans nos villes, c'est sale, c'est vraiment sale, c'est un urbanisme qui est trop sale. Avec tout ce qu'il y a comme centre commercial, on dirait que toutes les rues, les avenues se transforment en centre commercial. Et l'ensemble est trop sale, vraiment. On ne peut plus appeler ça urbanisme ou on ne peut plus appeler ça ville. c'est vraiment ce devoir au 21e siècle qu'on puisse encore vivre comme si nous étions au Moyen-Âge. Merci.
Merci, Madame Claudia. Professeur Soukou.
Partout dans le monde, il y a des zones. Il y a les zones rurales et la zone urbaine et la zone périurbaine. Donc, en République démocratique du Congo, elle dit les gens, on ne peut pas empêcher les gens de se déplacer. Les gens se déplacent, mais ils se déplacent sur quelle route? Ça, c'est le problème. Il faut aménager les routes.
Mais quitte une ville pour aller s'installer dans une autre.
Vous quittez d'un endroit à un autre, vous devez avoir une bonne route pour y aller. Donc, vous devez avoir des infrastructures. Il faut qu'il y ait de l'électricité. Il faut qu'il y ait des mêmes conditions. C'est ça. Si vous dites que la ville est sale, mais c'est vrai, la ville est très sale. La ville de Kinshasa est très très sale.
Quand il dit ça, c'est par rapport à l'écologie aussi, peut-être.
Les villes sont sales.
Les villes sont sales.
Mais qui rend les villes sales? C'est des gens qui sont dans les villes. Hein? Vous êtes à Kolwezi. La croissance démographique ne peut pas salir la ville. C'est quand, par exemple, toi-même, tu as une bouteille d'eau, tu bois et tu jettes par terre. Tu crois que qui peut aller jeter, ramasser pour toi? Tu manges de la banane, tu jettes par terre. Qui va ramasser pour toi? Donc, il faut que une culture de la propriété entre chez les Congolais. Quelqu'un dans sa voiture, il est en train de manger, il ouvre, il descend les vitres, il jette les choses dehors. Ça, c'est inconcevable. C'est ça qui amène la saleté dans le pays. Il faut que les Congolais puissent mettre dans sa vie, dans sa tête, la culture de la propriété. Tu es chez toi, tu n'as pas balayé la maison. Qui va venir balayer? Tu es chez toi, tu jettes les immondices devant ta porte. Après, tu dis, président, viens voir ce problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que les Congolais intériorisent la propriété. Hein, il veut savoir les biens collectifs, les biens communs doivent être propres. C'est vrai.
Professeur, densification, étalement urbain. La ville s'étale. Les gens s'achètent des parcelles, ils se construisent même dans des quartiers non viables parce qu'il n'y a pas toutes les infrastructures de base qu'on doit retrouver dans un quartier. Alors aujourd'hui, je me demande s'il y a aussi des structures de l'État qui s'occupent du logement pour construire des immeubles, loger les personnes. Il y a peut-être des privés qui les font, mais le besoin en logement est très criant ici chez nous. C'est là les gens achètent n'importe où pour se construire une maison et puis habiter avec sa famille. Alors quelles sont les solutions que vous apportez par rapport à tous ces problèmes, toutes ces questions?
Il faudrait que les ministères de l'urbanisme, les gouvernements puissent s'asseoir pour faire un état des lieux des espaces. Et il doit regarder quelle est la population qui existe et commencer à programmer de l'espace. Comme le gouvernement voulait prendre la décision de déplacer certaines personnes. Et ça, c'est une autre chose. Et la deuxième chose qu'il faut faire, il faut certaines maisons ici qu'on puisse
les raser
et mettre les maisons en hauteur. Il faut des décisions tout à fait courageuses pour arriver à gagner de l'espace. Des décisions tout à fait courageuses pour arriver à loger la population. Sinon, il y aura
aller en hauteur, c'est une solution quoi.
Meilleure des solutions.
Comme ça, ça permet de préserver l'environnement.
Des écosystèmes.
Ouais. Sinon, tout sera occupé.
Je ne dis pas que tout sera occupé, mais sauf que quand vous êtes en train d'aller en vous êtes en train d'étaler les maisons, la ville, vous êtes en train de perdre les espaces cultivables. Vous êtes en train de couper les bois. Vous êtes en train de déstabiliser les espaces et l'équilibre écoclimatique. Ça, c'est sûr.
Voilà, ça c'est sûr. Les impacts de la densification et de l'étalement urbain, on en parle avec le professeur Nicolas Soukou-Nemba, professeur à l'université d'Ottawa. Vous êtes géographe, vous êtes aussi expert en environnement. Donc gérer la gestion des grandes villes, c'est pas chose facile, j'imagine, professeur.
La gestion souvent n'est pas difficile. Hein. Pour bien gérer, il faut des règles.
Il faut des règles.
Et si les normes sont bien claires, les lois sont faites, les textes sont clairs et que les gens respectent, c'est facile. Mais quand
Madame Claudia vous a dit tout à l'heure, pourquoi ne pas urbaniser les villages, par exemple?
Mais on ne peut pas urbaniser un village. C'est un village. Sauf qu'on peut mettre les conditions meilleures dans un village.
Lesquelles, par exemple?
Ben, on peut amener l'électrification dans un village. On peut ramener des universités dans plusieurs villages concentrés. On peut construire des centres hospitaliers dans un village. Donc, c'est à ramener les conditions. On peut construire des magasins, donc les conditions de vie meilleures dans un village. Mais un village, il reste village. Sauf que s'il y a beaucoup...
Au moins, ça va freiner l'exode rural.
Quand vous atteignez 25 000 d'habitants, on n'appellera plus village, on appellera ça ville. Alors un village de 100 personnes, 200 personnes, on ne peut pas les rendre ville, on ne peut pas les donner le statut de ville. Pour qu'on donne le statut de la ville à un village, il y a des critères. Mais sauf que vous leur donnez les conditions meilleures pour éviter les déplacements de la population, pour éviter l'exode rural. Parce qu'aujourd'hui, les villages vieillissent, ça veut dire que les jeunes quittent les villages. Ils doivent chercher leur survie, ils doivent chercher des travaux. Les jeunes doivent chercher à se scolariser, mais les parents restent, ils vieillissent. Vous comprenez? Donc c'est un phénomène. Donc ce que madame a dit...
Est-ce qu'au Canada c'est pareil? Dans les villages c'est vide, les jeunes, tous les jeunes veulent aller dans les centres urbains?
Généralement les jeunes ont... Mais il y a un phénomène inverse. Au Canada, les gens veulent... Depuis le phénomène de coronavirus, les gens veulent rester dans le village. Ils veulent retourner. C'est un mouvement inverse. Parce que vous avez la connexion là-bas.
Oui.
On est aujourd'hui, les gens travaillent à partir de
la maison, télétravail.
Donc, on est en télétravail. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Vous économisez l'énergie du carburant, vous économisez les transports, vous économisez beaucoup de choses, vous gagnez du temps, vous préférez rester à la maison.
Bien, on va accueillir François Mouila depuis Timbulu. Bonjour François.
Oui, bonjour monsieur.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Eh oui, par rapport à la question qui concerne la identification, nous, ce qu'on se pose comme question, ok, si vous regardez aujourd'hui, il y a l'augmentation de la population. Et la question qu'on s'est posée, c'est que l'État, qu'est-ce qu'il a pris comme précaution contre cette augmentation? Parce que des fois, quand la population s'augmente, il faut qu'on augmente aussi l'emploi. Il faut qu'il y ait aussi l'augmentation en matière alimentaire. Mais le point en est que, d'abord, ceux qui sont là aujourd'hui, comme habitants, sont là en train de croupir dans le misère. Alors, quand il y a aussi l'augmentation, on ne sait pas si cette façon de croupir va continuer ou bien ça va s'abaisser. Parce que jusque-là, il n'y a même pas de mesures prises pour faire à ce que ces histoires-là puissent quand même, ou bien pour que la population puisse quand même se retrouver.
Donc, d'accord. Merci. Merci d'avoir appelé François. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Bon, depuis toujours, en République démocratique du Congo, les Belges nous ont appris d'aller à l'école et puis travailler. À la fin du mois, on vous donne un salaire. Parce que là, il a parlé de l'emploi. Mais vous savez que je vois un Chinois qui était en Chine et venir donner les gens de l'emploi ici. Je vois ici un Indien, il est pauvre chez lui, il revient ici, il devient patron d'un Congolais. C'est quelque chose d'inconcevable. Un Belge, il ne travaille pas, il est chômeur chez lui, il revient ici, on l'appelle patron. Alors qu'un Congolais peut faire un travail. Mais le comble ici, vous voyez un Chinois vend les arachides, un Congolais vend les arachides, tous les Congolais vont aller acheter chez les Chinois. Alors que les Chinois n'achèteront jamais chez les Congolais. Vous comprenez? Donc il faut savoir donner de l'emploi ici, de vous faire de l'emploi. Les jeunes peuvent créer de l'emploi.
Aujourd'hui, on encourage de plus en plus l'entrepreneuriat.
C'est très important. Moi, c'était une idée géniale. Les chefs de l'État disent, je vais faire des millionnaires. Les chefs de l'État n'a pas une machine pour faire des millionnaires. C'est des gens qui doivent concevoir que bon, les chefs veulent que les gens soient millionnaires. Crée ta compagnie, va conquérir là les autres, le marché, tu auras un marché, tu vas aller. Il va pas venir dans votre maison vous donner des millions. Donc les gens attendent encore. La fonction publique elle est saturée, les universités sont pleines, vous comprenez. Donc il faut que nous changions nous puissions inverser. Quelqu'un peut créer l'emploi et engager les gens.
Bien, professeur, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur Nicolas Chukwu-Onemba, professeur à l'Université d'Ottawa. Vous êtes géographe, vous êtes un expert en environnement, en évaluation environnementale. C'était un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Je pense que vous reviendrez la prochaine fois avant de retourner au Canada.
On pourra se revoir.
Merci, professeur, et à la prochaine.
Merci, journaliste.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Pierre Diassinois était à la mise en onde. Tati Mapoukou a assuré la réalisation. Marcel Ngombo à la coordination. Jody Daniel Cachano au micro. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.